Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air Diwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur 101.7 et aussi en podcast sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au téléphone, nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste. Bonjour. Jean-Baptiste, vous êtes ici pour nous parler de plusieurs choses, à commencer par un spectacle qui s'intitule Nez à Nez, que vous présenterez avec plusieurs représentations prévues pour ce printemps, et puis aussi du Centre Imaginaire, donc cette structure où vous la présenterez proprement, une compagnie, je suppose, et de comédiens, j'imagine. Et ensuite, vous parlerez rapidement aussi de cette organisation qui va avoir lieu du 9 au 12 février, qui s'intitule « Curieuses rencontres », où vous serez présent. Jean-Baptiste, vous avez quelle fonction au sein du Centre Imaginaire ?
Eh ben, le Centre Imaginaire, donc, c'est une compagnie, on est de Romois, on est à Chabeuil, entre Cré et Romans, hein, pour situer. Dans la compagnie, moi, j'ai plusieurs casquettes, je fais ce qu'on appelle de la direction artistique, je choisis un peu avec qui je travaille sur la musique, la scénographie, sur différents aspects de création, plutôt dans le spectacle vivant. Il se trouve que j'écris de plus en plus et que je me forme de plus en plus au métier de comédien, donc je navigue entre ces différentes casquettes, en dehors de ce qui, évidemment, est lié à la production, la communication, l'administration. Ouais, c'est plein de petits métiers, une compagnie.
Voilà. Donc le Centre Imaginaire, cette compagnie, a quelle vocation à vos yeux ?
Alors, de plus en plus, et clairement, on fait de la création, du spectacle vivant. Donc j'ai des collègues avec lesquels je suis associé. Il s'agit de Clémentine, une scénographe avec qui je travaille depuis presque 10 ans, autour d'événements qu'on a organisés et de créations. Et Christina Firmino, qui fait de la création sonore, qui est plutôt dans le documentaire à la base, et puis avec qui on travaille sur le son au plateau maintenant. Et ce petit trio, on s'est embarqué sur différentes créations. Il y en a une qui s'appelle le Musée Itinérant de Germaine. Celle dont je vais vous parler, c'est Nez à Nez, et il y en a d'autres un peu dans les tiroirs sur lesquels on a déjà travaillé ou on va travailler. Ouais.
Effectivement, vous aviez déjà eu le micro pour justement présenter le Musée Itinérant de Germaine. Ouais. Et donc, Nez à Nez, c'est un nouveau spectacle, une nouvelle création qui est née dans cette crise sanitaire.
Ok, né avant, les germes de la création ont démarré il y a presque 4 ans. C'est incroyable le temps qu'il faut et le chemin qu'il faut parcourir pour mener une création. On arrive au bout, on la peaufine, on la travaille, on la muscle maintenant en la jouant devant dans divers configs en scolaire ou dans des lieux non dédiés. C'est un spectacle qui est autonome. C'est vrai que le contexte sanitaire, il est venu percuter un peu le chemin de la création en 2020 avec des résidences qui sont d'un côté cassées la figure, et puis de l'autre, on a eu aussi finalement d'autres opportunités qui sont nées à l'intérieur de cette crise-là, qui nous ont permis de construire des chemins de création auxquels on ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'en mars 2020, on ne savait pas qu'on allait pouvoir faire une résidence au Clévaux, la Cité des Savoirs, dans la Drôme. On ne savait pas qu'on allait jouer aussi dans des établissements scolaires, parce qu'on avait prévu de jouer dans des médiathèques, ça a été annulé, mais du coup, on a quand même pu faire ces dates là où c'était possible, où le cadre réglementaire le permettait à ce moment-là, dans des MFR, par exemple à Mondy, ou voilà, des choses comme ça. Ce qui fait que ce qu'on a appris, c'est surtout à s'adapter à ce moment-là. Et finalement, en tout cas sur les aspects de création, je crois que pour les compagnies, cette période-là n'a pas été forcément un frein. C'est surtout la rencontre avec le public qui a été difficile, malmenée, avec voilà, tous les reports qu'on fait.
Et puis il y a aussi ce partage entre le comédien et le spectateur qui a certainement manqué aussi, non ?
Bah, ça a manqué et en même temps, on a réussi à trouver quand même des occasions, des sorties de résidence, comme je disais, des rencontres avec des publics plutôt scolaires, quand le cadre le permettait. Ce qui est sûr, c'est que ça a décalé ou ça a ralenti un petit peu la mise en œuvre quoi, de la création. Je dirais pas que c'était un effet d'aubaine, mais sur ce temps-là dédié, et finalement cette pression aussi qu'on a des fois à devoir sortir tout de suite les choses. Alors l'effet bénéfique, c'est que on peut prendre plus de temps pour mûrir aussi certaines idées. Ce qui est plus difficile, c'est au niveau de l'économie, de la viabilité, quoi, parce que quand on prévoit par exemple de faire, Avignon en 2020 ou Chalon dans la rue en 2020 pour montrer son travail et espérer derrière que des gens nous voient et puis que le spectacle ait une vie et qu'en fait ces rencontres ne se font pas, l'angoisse qu'arrive là, c'est est-ce que ma compagnie va survivre à cette période-là, oui ou non. Et là-dessus, sans faux semblant, il faut quand même reconnaître que le secteur a été plutôt bien aidé sur le maintien de l'intermittence, sur des choses comme le fonds de solidarité. Donc tout le monde n'en a pas bénéficié, mais ça a permis de sauver des situations qui étaient clairement à risque. Voilà.
Le Centre Imaginaire, d'ailleurs, sa démarche, c'est d'explorer la réalité hein, en collectant des sons, je le précise, des images, des témoignages et les odeurs d'où émane ce spectacle nez à nez, je suppose. Mais alors, comment se passe justement l'élaboration, la prise de toutes ces données pour monter un spectacle ?
Ben là, ça touche au cœur ouais, de ce qui nous a animés pendant 4 ans. On a travaillé avec des neuroscientifiques qui nous ont vraiment fait comprendre que les odeurs avaient un pouvoir sur notre cerveau, sur nos émotions, sur nos rapports à l'autre, un pouvoir concret. C'est-à-dire c'est de l'ordre du magique, mais c'est de l'ordre de l'explicable. En tout cas, quand on discute avec des neuroscientifiques, c'est un peu ça. C'est des gens qui sont dans l'abstraction, mais qui arrive à organiser un peu ça dans un langage qui est le leur, quoi. On a aussi travaillé et collaboré avec une parfumeuse qui, elle, nous a vraiment emmené sur le terrain de la création olfactive et en nous faisant sentir des odeurs inconnues, des créations. Et en même temps, on peut aussi recréer des ambiances olfactives ou l'odeur de personnages, si on veut, à partir du métier de parfumeur. Et nous, on s'est vite rendu compte qu'il allait être beaucoup plus intéressant pour cette création-là de faire vivre une expérience au spectateur pour qu'il expérimente par lui-même la puissance et le pouvoir des odeurs plutôt que de chercher à l'expliquer ou la comprendre. Donc d'être dans le sensoriel. Et donc rapidement dans le multisensoriel. Donc ce qu'on propose, c'est une expérience à l'aveugle avec une trentaine de transats qui sont installés en cercle et qui permettent au spectateur de glisser dans une proposition où ensuite, à l'aveugle, on va lui communiquer par les sens 35 minutes d'un voyage dont la partition se joue par les odeurs. C'est comme 9 tableaux olfactifs qui sont proposés dans un parcours assez existentiel, quoi.
Et donc ces spectacles, nez à nez, est déjà limité en place, hein, je crois que c'est 30 ouais. spectateurs, il me semble. Ouais. Et du fait de la disposition de ces spectateurs, sans trop dévoiler, de proposer des odeurs particulières à chaque spectateur ou à tous, est-ce qu'il y a moyen d'interagir aussi dans la perception de ce qu'un spectateur dans le spectacle par rapport à l'odeur qu'il a ressentie?
Alors on l'a beaucoup fait en résidence, c'est-à-dire qu'on a on a essayé des odeurs, on a essayé différents modes de diffusion des odeurs, et ensuite nous on avait besoin du ressenti de chaque spectateur pour pouvoir affiner un peu notre partition et savoir si on n'en mettait pas trop, assez, qu'est-ce que les gens avaient reçu ou imaginé par rapport à ce que nous on avait donné. Et on s'est vite rendu compte que quand on envoie une odeur à quelqu'un, même s'il est dans le noir, qu'on y associe un son, les imaginaires de chacun vont être très différents. Pourtant, avec le même message, l'imaginaire de chacun va être très différent. Donc, c'est ça la clé du travail olfactif, c'est que on a une expérience qui est collective pour 30 personnes, mais par contre, le ressenti va être différent pour chacun et chacune des spectateurs qui va vivre ça. Chacun va vivre son expérience personnelle et intime, connectée avec son histoire, son enfance, ses souvenirs, son imaginaire. Donc c'est vrai et valable ça souvent dans le spectacle, et ça l'est certainement de manière assez accentuée avec une proposition comme celle-là, quoi.
Et puis cette élaboration est faite aussi avec du tout-terrain, comme vous dites. Alors comment se concrétise ce tout-terrain? Vous allez sur divers aspects de la société, que ce soit en urbain ou alors en rural ou en entreprise, ou comment ça se passe?
Bah, le tout-terrain, c'est déjà pour nous être capable de venir dans des lieux non dédiés, c'est-à-dire qu'on arrive avec un spectacle qui est entièrement autonome en technique et qui n'a pas besoin, même s'il peut jouer sur un plateau de théâtre, qui n'a pas besoin d'un plateau de théâtre pour jouer. On n'a pas besoin d'avoir des supports de lumière en l'air. Voilà. On a des contraintes techniques, mais qui sont qu'on trouve un peu partout. Il nous faut une salle assez grande qui puisse faire le noir avec une porte qui donne sur l'extérieur. Et il nous faut deux espaces, puisqu'il y a un accueil avec un personnage qui accueille le public au départ et qui fait glisser les spectateurs dans la proposition. Donc nous, l'envie, c'est de pouvoir aller dans des théâtres, pourquoi pas, mais aussi dans des lieux non dédiés. Donc c'est des établissements scolaires, c'est des médiathèques, donc on va aller à la médiathèque de Cré. On va jouer à la gare à coulisses, on va jouer dans un temple, on va jouer dans un couvent. Du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut un petit peu s'adapter, mais qu'on est tout terrain dans le sens où tout est possible à partir du moment où on a une salle assez grande, quoi.
Il y a un aspect aussi, je voudrais savoir, fut un temps où les comités d'entreprise permettaient aussi des représentations. Est-ce que c'est toujours d'actualité?
Alors, c'est d'actualité, c'est même le sujet qui est travaillé par... Bon, je sais que nous, avec ce spectacle, année à année, on avait été approchés par le département de la Drôme pour essayer de mener une opération un peu de mécénat, et, en tout cas de rapprocher des entreprises avec le culturel, mais pas pour juste faire du partenariat financier, pour essayer de travailler sur le sens un peu que des projets artistiques. Voilà, des artistes et des chefs d'entreprise, voilà, se rencontrent. Donc comme il y a une grande filière des plantes à parfum en Drôme, par exemple il y a l'herbier du Diwa par chez vous, il y a Elixens en bas de la vallée, on s'était dit que ces rapprochements pouvaient se faire. Alors ça s'est pas concrétisé, parce que je crois qu'on est on n'est pas très habitué à faire ça, alors que certainement il y aurait un intérêt s'il y avait la place, la culture, je dirais, chez les artistes comme dans les entreprises, pour dire bah, peut-être qu'on peut faire un truc ensemble qui serait pas déconnant, on apprendrait chacun des choses. Et... Mais c'est souvent on parle de ça, mais en fait les exemples, j'ai l'impression, sont assez limités, quoi. Voilà. Après, dans les CE, je sais que nous, bon, on a déjà bossé dans des CCAS, voilà, qui ont une grande culture syndicale de la culture en entreprise, quoi. C'est-à-dire apporter la culture dans l'entreprise, des expos, des spectacles. C'est arrivé une fois qu'on bosse comme ça, avec le, en gros, le CE d'EDF.
Le Centre Imaginaire, donc, est né en 2012, est installé à Chabeuil. Vous avez produit, en passant chez nous pour l'annoncer, le musée itinérant de Germaine, maintenant né à né. D'autres représentations ont eu lieu, ou d'autres créations qu'on pourrait peut-être aborder aussi?
Bah, on s'est pas mal... On s'est éclaté sur une création qui s'appelle Passage, qui est en fait une méthode de création où on bosse avec des habitants pour explorer des espaces publics. Et donc du coup, on ne sait jamais quel lieu on va explorer avec les gens qu'on rencontre au départ, parce que c'est eux qui le choisissent. Donc la méthode de projet, c'est ça. Et on est une petite équipe autour de l'écriture, de la création sonore, de la typographie et de la musique. Et on accompagne un groupe autour de l'exploration d'un espace. Donc ça a donné lieu vers chez nous à l'exploration d'une carrière de tuf abandonnée depuis plus de 100 ans dans le Vercors, avec un groupe d'habitants, une vingtaine de personnes en 2020. Et puis on a travaillé avec la MJC La Canopée et le Train Théâtre sur l'exploration, c'est eux qui l'ont choisi, donc de l'ancienne gare de triage, je dis l'ancienne, future ancienne gare de triage, semble-t-il, dépôt de wagons de la SNCF dans les quartiers ouest de Porte-les-Valences. Donc là, pendant un an, on mène un travail d'exploration qui voilà, tire du son, des écrits, des sensations à partir du réel qui nous est présenté. On va chercher l'histoire des lieux, on va imaginer d'autres histoires à ces lieux, et puis on va mettre tout ça en forme dans un podcast final qu'on peut écouter sur notre site. C'est des podcasts de 50 minutes avec des créations sonores, quoi. Et puis à la fin, on fait des déambulations pour partager avec d'autres en live dans un parcours tout ce qu'on a découvert au fil de l'eau. Voilà. En gros, il y a 6 mois d'atelier, 6 ou 7 mois d'atelier, puis à la fin, il y a une création qui émerge comme ça. Ça nous a pas mal plu, et puis on va essayer de continuer ça.
Bon, et donc pour les représentations de nez à nez, deux rendez-vous sont déjà donnés, le 8 et 9 avril. Alors le 8, ça sera à la gare à coulisses, à Heure, et le 9 avril à la médiathèque de Cray. Et puis on va peut-être aussi parler du Centre Imaginaire. Combien d'artistes ou combien de personnes y œuvrent?
C'est assez variable en fonction de la nature des projets. C'est le lot de l'intermittence, ça, on va dire. Et donc du coup, il y a une équipe qui est, il y a une équipe de 3 personnes au niveau artistique qui est vraiment l'ADN artistique de la compagnie. Donc Christina Firmino, Clémentine Cadoret et donc moi. Au niveau administratif, on a une personne à l'administration purement, et Eric Paye aussi au plateau qui s'occupe de la production et de la diffusion. Le plateau, c'est un lieu de résidence à Romans-sur-Isère, avec lequel on est associé du fait de cette collaboration. Voilà, et après on travaille avec, je parlais d'un typographe, c'est Quentin Préau qui est au Quai à Pont-de-Barré, qui est typographe là-bas. Il y a un certain nombre de techniciens avec lesquels on bosse, dont je ne vais pas forcément faire la liste là maintenant. Voilà, des collaborations musicales ponctuelles sur tel ou tel projet.
La typographie est un vieux procédé d'imprimerie. Pour vous, il a toujours son charme et correspond bien au Centre Imaginaire?
J'y connaissais rien du tout à la typographie. Et oui, effectivement, c'est plongé dans une matière qui nous, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qui nous interpelle. C'est de l'artisanat, c'est du beau papier, c'est des belles encres. On prend les caractères d'impression dans la main, on les trempe dans la peinture, on tamponne soi-même. Ce contact et cette sensation-là fait du bien. Et je crois que visuellement, après, ça se ressent quand on passe devant une affiche typographique, par exemple, qui n'a parfois rien à nous vendre et juste à nous proposer une poésie sur les murs. Ouais, on est dans le beau, quoi. Moi, j'aime beaucoup.
Et puis, la composition se fait à l'envers, hein ?
Oui. Alors moi, je suis pas le typographe, donc je vais être limité, mais je l'ai un petit peu manipulé. En tout cas, il y a des petites cassettes pour mettre les caractères de typographie, pour faire simple. Et on compose notre texte, certainement à l'envers. Hein.
Ensuite, nous parlerons de votre présence aux Curieuses Rencontres. Donc, il s'agit du collectif La Curieuse, l'association La Déviation et le festival Entre les Mondes qui organise les Curieuses Rencontres, dont je parlais au début. Ça aura lieu du 9 au 12 février. Donc, votre présence consistera en quoi ?
On va jouer le spectacle Nez à Nez le 11 février. Il y a deux horaires. Et donc, c'est ce collectif d'artistes, La Curieuse, qui présente des artistes avec lesquels qui fondent ce collectif. Donc il y a énormément de propositions, il y a de la marionnette, il y a de la musique, il y a du théâtre. Et ça se passe dans tous les lieux de ce petit village des contreforts du Vercors de Château-Double. C'est un partenariat La Curieuse Déviation. Déviation, c'est l'asso qui a organisé pendant, 15 ans, là, les rencontres entre les mondes à Chabeuil. Et donc, il y a une émulsion artistique, de bénévoles, de gens, pour qu'il se passe quelque chose là, dans une semaine, à laquelle nous, on se greffe parce qu'on est de Chabeuil, parce que certainement j'habite Château-Double et que tout ça est extrêmement nous lie énormément. Donc, on est hyper fiers que ça puisse exister, surtout en cette période-là. Voilà, donc appel aux curieux à venir découvrir des choses.
Les Curieuses Rencontres, on pourra découvrir quel programme ?
Donc il y a à 99,9% des artistes du collectif de La Curieuse. Nous, on est partenaires, on est leurs voisins et invités. En particulier sur le vendredi 11, on a deux beaux concerts avec L'Étrangleuse et Douard Trio. Alors Douard Trio, il se qualifie de jazz oriental. Moi, je conseille à tout le monde d'écouter ça. Et si vous avez du son à passer, écoutons ça ensemble. Et puis le 12 février, on a un spectacle que moi je connais pas, donc je vais être curieux d'aller le voir, qui s'appelle Rire de tous les mots, avec Pierre Daudet, qui est un artiste avec lequel on travaille sur avec le musée itinérant de Germaine, et qui nous propose là des lectures de textes, des chansons et de la musique dans une forme que je connais pas et que je vais découvrir. Donc venez à la découverte.
Est-ce qu'il y a quand même, en quelque sorte, une thématique proposée autour de tous ces spectacles pour les Curieuses Rencontres ?
L'hétéroclisme, je crois que là, le spectacle vivant, c'est vraiment cette capacité, quand on se retrouve devant, à être surpris, c'est les émotions. Mais très franchement, s'il y a un point commun, ça doit être leur différence. Je botte en touche, hein, c'est pas mal.
Non, mais c'était par rapport à... Moi, je pensais naïvement une thématique par rapport au prisme de diverses compagnies ou divers artistes, de donner leur interprétation d'une idée, par exemple. Ce qui n'est pas le cas, en somme.
Non, là, il y a des histoires différentes en fonction des projets. Il y a du ciné-concert, il y a du concert, il y a du spectacle vivant, de la marionnette... y a du théâtre, on est dans des directions artistiques qui sont différentes. Ouais.
Il y a un site internet pour découvrir ces curieuses rencontres. Il suffit de taper ces mots-là dans un moteur de recherche, on retrouve assez rapidement la page. Et pour la compagnie Le Centre Imaginaire, vous avez un site internet également.
Centre Imaginaire.
Est-ce que vous auriez une idée de bande sonore musicale, peut-être pour illustrer l'émission ?
Ça pourrait être pas mal de mettre un des groupes de La Curieuse. Il y a Douart Trio qui est super, qui va jouer le 11, je crois, février.
Jean-Baptiste, je te remercie de nous avoir donné de ton temps pour présenter donc ce spectacle nez à nez par le Centre Imaginaire et puis aussi quelques actualités avec ces curieuses rencontres qui auront lieu du 9 au 12 février. Et je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci, portez-vous bien.
Au revoir. Thank you.